VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Abidjan, 18h à Libreville, bienvenue à notre journal. Afrique de l'Ouest, le mouvement chiite du Nigeria accuse l'armée nigériane d'avoir tué plusieurs centaines de ses adhérents de la ville de Zaria, dans le nord du Nigeria. Mais d'autres sources parlent de 20 morts. Salwa Jafari.
Tout a commencé, selon la version des militaires en tout cas, quand les membres du mouvement islamique du Nigeria ont monté des barricades, puis commencé à jeter des pierres sur le convoi du chef d'état-major. Tentative d'assassinat, selon l'armée, ce qui expliquerait l'opération d'envergure qui suivit. Parmi les victimes, l'épouse et les deux fils du leader du mouvement, Ibrahim Zakzaki. Il faut dire que les tensions entre chiites et militaires ne datent pas d'hier. Zakzaki lui-même a été emprisonné à plusieurs reprises. Le président du Forum des médias du mouvement islamique du Nigeria a affirmé, selon la presse locale, que le siège du Forum ainsi que la résidence du chef chiite ont été détruits. Ces meurtres étaient si brutaux, même les personnes blessées dans la fusillade ont été identifiées et tuées de sang-froid par des soldats, peut-on lire sur le communiqué du groupe. Le mouvement islamique du Nigeria est minoritaire dans ce pays où plus de 4 musulmans sur 5 sont sunnites. En juillet 2014, un accrochage entre l'armée nigériane et le mouvement islamique du Nigeria avait déjà causé une trentaine de morts du côté du groupe chiite.
En Guinée, le président Alpha Condé a prêté serment aujourd'hui pour son second mandat de 5 ans. Plus de 10 chefs d'État africains ont fait le déplacement à Conakry pour son investiture, notamment le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et son homologue du Burkina, Michel Kafando, en Afrique de l'Ouest. Et côté Afrique centrale, le président gabonais Omar Bongo Ondimba et son collègue du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Burkina Faso, la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle du 29 novembre par le Conseil constitutionnel aura lieu demain. C'est ce qu'a annoncé le Conseil dans un communiqué. Le Conseil devrait valider l'élection de Roch-Marc Christian Kabore, ancien baron du régime de l'ex-président Blaise Compaoré, passé dans l'opposition un an avant la chute du chef de l'État en octobre 2014. Aucun de ses adversaires n'a contesté le scrutin qui s'est déroulé de manière transparente et crédible. Selon les observateurs, le président élu Kabore a souligné aujourd'hui que son investiture le 29 décembre sera la première passation de pouvoir entre civils de l'histoire tumultueuse du Burkina. Le président élu a également déclaré qu'il n'y aura pas d'impunité pendant son mandat. La justice suivra son cours jusqu'au bout, a affirmé Christian Kabore aujourd'hui lors d'une interview à France 24. Pendant la période de transition, la justice burkinabé a repris les enquêtes sur les assassinats de l'ancien président Thomas Sankara en 1987 et le meurtre du journaliste Norbert Zongo et de ses 3 compagnons en 1998. Après la conférence sur le climat à Paris qui s'est terminée sur un accord pour limiter le réchauffement climatique, le débat est ouvert sur les énergies renouvelables. Au Togo, on y réfléchit avec en ligne de mire l'énergie solaire. Des précisions avec notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Se tourner vers les énergies renouvelables est un impératif de développement pour le continent le plus ensoleillé du monde. Guy Arosoudé, ingénieur spécialisé dans les énergies durables.
Tous les champs d'énergie renouvelable sont à la faveur de l'Afrique. Et pourquoi nous n'excellons pas dedans? Parce que ce sont des technologies qui nous échappent encore et qui coûtent cher. Mais ce qui est sûr, l'Afrique a de très beaux jours devant elle pour les énergies renouvelables.
Aujourd'hui, l'énergie solaire commence par gagner le continent, mais au Togo, sa cherté émousse l'engouement de la population, comme le souligne Amatelou Banla, président de l'Association togolaise des professionnels en énergie renouvelable.
Un panneau qui est vendu à Lomé à 100 000 francs peut être retrouvé au Mali à 50 000 francs.
Pour pouvoir exploiter son potentiel solaire, le Togo a des efforts à faire, estime Yaovi Kogbe, responsable de l'Organisation pour l'environnement et le développement durable au PED Togo.
Nous avons d'énormes problèmes d'énergie, alors que nous avons énormément de potentiel. Le Togo peut chercher à mobiliser des financements endogènes pour aller vers le développement des énergies renouvelables et essayer de mettre aussi en place des mesures incitatives, par exemple détaxer le matériel solaire. Aujourd'hui, nous savons que cela coûte énormément cher. Donc, si on veut encourager les populations qui ne peuvent pas avoir accès à l'électricité par le réseau, réseau conventionnel, il serait intéressant donc de les encourager à aller vers des énergies propres qui nous permettent donc d'être sur une trajectoire de développement sobre en carbone.
La conversion vers l'énergie solaire rime avec un changement de comportement, indique l'ingénieur Guy à Ressoudé.
C'est ne pas laisser les lumières allumées, ne pas mettre une ampoule là où il ne faut pas. C'est voir un peu son installation pour ne pas avoir des déperditions. Ce sont nos comportements qui nous amènent à surconsommer.
En août dernier, le Togo s'est doté d'un plan d'action des énergies renouvelables qui prévoit de porter la puissance installée en ces énergies durables à hauteur de 331 MW. Kaylosson, Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burundi, ouverture du procès de 28 officiers accusés dans le coup d'État avorté de mai dernier. Un procès qui met en relief la profonde division de l'armée burundaise. Idriss Fall.
Un de leurs avocats, Maître Onésime Kabaya-Baya, a déclaré que le procès s'est ouvert à Gitega, dans le centre du pays. Il précise qu'il n'a pas pu parler à ses clients ni accéder à leur dossier. Agnès Bangiri Tchenge, porte-parole du ministère de la Justice, dit que le groupe est accusé d'avoir tenté de renverser les institutions et d'avoir perpétré des assassinats et d'autres actes de violence. Parmi les accusés, le général Cyril Ndaï Roukier, ancien ministre de la Défense, et 5 autres généraux, dont le colonel à la retraite Bosco Daradangwa. Plusieurs leaders du coup d'État avorté du 13 mai dernier sont toujours en fuite. Depuis l'échec de ce putsch, le général Godefroy Niyombare n'est pas réapparu en public et n'a fait aucune déclaration. Mais le général Léonard Nganda Komana assure qu'ils n'ont pas baissé les bras et chercheront à renverser le président Pierre Nkurunziza. Vendredi, des combats ont opposé les loyalistes et les insurgés dans la capitale. Près de 90 personnes sont mortes, des civils pour la plupart.
Selon Refugees International, une ONG américaine militant pour la protection des personnes déplacées, citée par l'AFP, des Burundais réfugiés au Rwanda sont recrutés par des groupes armés en violation du droit international. Dans un rapport publié aujourd'hui, l'ONG américaine pointe du doigt le recrutement de réfugiés burundais à l'intérieur du camp de réfugiés de Mahama, dans le sud-est du Rwanda, par des groupes armés non étatiques. Refugees International dit s'être basé sur des renseignements collectés au Rwanda en septembre et octobre 2015, et il mentionne en particulier le recrutement d'enfants. Michael Boyce, l'un des rédacteurs du rapport, estime que l'armement des réfugiés burundais au Rwanda représente non seulement une sérieuse violation du droit international, mais aussi une grave menace pour la paix au Burundi et l'ensemble de la région. En RCA, les bureaux de vote sont maintenant fermés dans l'enclave musulmane de PK5 à Bangui, l'un des secteurs où le vote pour le référendum constitutionnel le dimanche avait été prolongé de 24 heures en raison des violences qui avaient fait 5 morts et 20 blessés au PK5 hier. Malgré ces difficultés, Julius Rufin Nkwadebaba, le rapporteur général de l'Autorité nationale des élections, reste confiant dans le succès du processus électoral censé sortir le pays de 3 ans de violents affrontements intercommunautaires. Un processus dont le référendum constitutionnel n'est que la première étape.
Le déroulement de ce référendum est pour nous un test grandeur nature qui nous permet, là, maintenant, d'évaluer la situation et de prendre des mesures plus adéquates pour le prochain scrutin dont l'enjeu est plus important. L'Autorité nationale des élections se réunira pour évaluer la situation et prendre éventuellement la décision d'autoriser la poursuite de cette opération, non seulement à l'intérieur, mais dans certains pays où les Centrafricains n'ont pas pu, n'est-ce pas, faire le vote, soit à temps, soit carrément pas du tout, pour question de déploiement du matériel et autres. Comme je l'ai dit, nous devons aller de l'avant parce que c'est la seule issue de cette transition qui tire à sa fin. Et donc, les mesures adéquates seront prises. Je ne dirais pas qu'ils corrigeront toutes ces failles, mais au moins pour que nous organisions, là, d'ici là, un scrutin acceptable aux résultats acceptés.
Julius Rufin Nkwadebaba, rapporteur général de l'Autorité nationale des élections, au micro de notre envoyé spécial à Bangui, Tatiana Mosso. Au Tchad, fait aujourd'hui de la grève dans le secteur public lancé le 8 décembre dernier par 2 centrales syndicales pour exiger le paiement du salaire du mois de novembre à leurs adhérents, notamment dans le secteur de l'enseignement. Les centrales ont obtenu satisfaction de leurs revendications. Et puis en RDC, attaque des rebelles ougandais des ADF contre la ville d'Oicha, territoire de Beni, province du Nord, Kivu, dans le nord-est du pays, bilan 3 3 militaires et un civil tué. Et pour terminer, ici aux États-Unis, le milliardaire Donald Trump, candidat à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2016, inquiète jusque dans son propre parti après sa proposition de fermer les frontières américaines aux musulmans. Mais le mania de l'immobilier assure que ceux qui pensent lui barrer la route de la Maison-Blanche se font des illusions. La proposition de Donald Trump d'empêcher temporairement les musulmans d'entrer aux États-Unis met en danger la sécurité nationale du pays, a estimé pour sa part le secrétaire d'État américain John Kerry. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.